ça a été un sacré roller coaster parce qu'en fait, on est allé quasiment, on était à 48 heures du closing quand la menace s'est confirmée. Et donc, le mec, la boîte qui voulait nous racheter finalement se retire du tour.
Voilà.
Et là, c'est compliqué parce qu'en fait, le business angel, lui, il avait vu, le jackpot hein, parce que lui, il a mis 1,5 million et il allait faire un fois 10 sur sa mise en 18 mois, quoi. Enfin, un truc. Et là, tout d'un coup, le truc s'effondre et donc, il faut complètement changer de plan.
Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les tout premiers mois de leur aventure. On y parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis Michael Koenka, cofondateur de Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans La Galère. Je suis Michael Koenka et j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Rémi Dangla, CEO et cofondateur de Stila Technologies. Hello Rémi, ça va ?
Ça va et toi ?
Trop bien, trop bien. Merci d'être là pour cet épisode. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et nous présenter Stila Technologies ?
Oui, alors donc je suis Rémi Dangla, effectivement cofondateur et actuel CEO de Stila Technologies. On en parlera, mais ça a l'air si linéaire comme ça comme présentation, mais en fait, ça ne l'est pas vraiment.
Je suis pas toujours... Sinon, je ne serais pas là.
Sinon, je ne serais peut-être pas là. Donc mon parcours, en fait, c'est là-bas, j'ai fait Polytechnique, j'ai fait une thèse à Polytechnique, donc je suis un chercheur à la base. Et en fait, à travers Stila, j'ai valorisé les technologies, les brevets que j'avais développés pendant ma thèse à l'école Polytechnique. Donc ça, c'est les origines du projet. Et en résumé, ce qu'on fait chez Stila Technologies, alors en fait, on est une boîte très techno dans le domaine de la biotech. On développe, on commercialise des instruments d'analyse génétique de précision. Et donc ça, je pense que ça ne parle pas à grand monde. Donc pour expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit, en fait, tout le monde connaît aujourd'hui les tests PCR.
Ah, et ça, c'est... Tout le monde connaît.
Tout le monde en a fait au moins un, si ce n'est beaucoup plus. Et nous, en fait, on a développé une nouvelle génération de technologies de tests PCR. Et les tests PCR, c'est des tests qui permettent d'aller détecter la présence de biomarqueurs génétiques dans un échantillon biologique. On connaît ceux qui ont été utilisés pour détecter le Covid. Mais en fait, ces tests de PCR qui ont été utilisés pour détecter le Covid sont assez basiques. Nous, ce qu'on a développé, c'est une techno qui est beaucoup plus précise, beaucoup plus sensible et qui permet d'appliquer cette même logique de tests PCR, mais à des applications plus difficiles à adresser classiquement avec la PCR normale. Comme la détection et le suivi de cancer par simple prise de sang.
D'accord.
Ce qui est aujourd'hui pas faisable avec les tests PCR classiques.
Vraiment une innovation dans le diagnostic et les analyses médicales, en fait. C'est ça ?
Ouais, en gros, notre techno, elle permet de faire ça.
Et peut-être d'autres choses.
Mais elle permet de faire beaucoup d'autres choses, en fait.
Okay.
On a inventé une plateforme, c'est des systèmes d'analyse génétique, des systèmes d'analyse par PCR, qui s'appelle la PCR digitale, en l'occurrence. Mais il faut savoir que même la techno de base, la techno de PCR, tout le monde la connaît pour les tests Covid. Mais en fait, la PCR, elle est utilisée à plein d'autres trucs, en fait. On l'utilise en agroalimentaire. Si on veut détecter qu'il y a des OGM dans de la farine qui est importée en Europe, on fait des tests PCR dessus. On fait des tests PCR digital. Donc, la techno qu'on a développée, elle est aussi utilisée, par exemple, pour faire le suivi du Covid, mais pas chez les gens, dans les eaux usées.
D'accord.
Et en fait, c'est la techno qui est utilisée le plus aujourd'hui en France, en Europe et même dans le monde pour suivre l'épidémie de Covid. On ne va pas regarder les tests chez les gens parce que les gens arrêtent de se tester, ils en ont marre, ils ne le font plus. Par contre, tout le monde va encore aux toilettes.
Sauf
de fait.
Sauf gros problème.
et donc, on va pouvoir retrouver, si on regarde la quantité moyenne de Covid qu'on va retrouver dans les eaux usées, ça nous renseigne sur est-ce que l'épidémie est en train de partir ou de repartir à la hausse.
Il y avait beaucoup de stats là-dessus, même pendant le Covid, il parlait de la détection dans les eaux usées.
Ça continue.
Ça, c'est avec ton type de technologie.
Ouais. C'est des tests génétiques compliqués, parce qu'en fait, là où les tests PCR classiques ne fonctionnent pas, c'est quand on est dans des échantillons biologiques compliqués. Et l'eau qui sort des toilettes, c'est quand même assez compliqué et complexe en termes d'échantillons biologiques. Et donc, les tests classiques ne fonctionnent pas, il faut des technologies plus sensibles, plus précises, plus robustes, et c'est nos technologies qui permettent de faire ça.
Ok, hyper intéressant. Donc, c'est ce qu'on appelle une startup deep tech. Donc le fond est éminemment technique et technologique. Et on démystifiera des mots simples durant tout l'épisode pour essayer de bien comprendre justement comment on a commencé à le faire là, les cas d'usage, à quoi ça sert vraiment, etc. Mais avant d'y arriver, et merci pour cette introduction, on va redémarrer au début. Donc, tu l'as dit, tu étais chercheur, donc peut-être pas vocation à faire de l'entrepreneuriat. Tu étais chercheur en quoi et c'était quoi ta vision du futur à ce moment-là?
En fait, moi, à la base, j'avais pas de vocation à faire être entrepreneur quand je me suis lancé dans la recherche. Au contraire, j'avais vocation à être chercheur. J'adorais la recherche. J'adorais en fait la physique, les maths. J'ai fait une thèse, ce qu'on appelle en microfluidique. Donc, c'est gérer des toutes petites quantités de liquide, des gouttes, des choses comme ça. C'était très très amusant à faire en thèse. Et j'ai fait une thèse assez fondamentale en fait dans le domaine de la microfluidique.
D'accord.
Donc, encore une fois, assez loin des applications.
Quand tu dis fondamental, ça veut dire loin des applications.
Ouais, loin des applications.
C'est théorique.
Je m'amusais bien avec faire des expériences, faire des équations sur un coin de table. Mais en fait, c'était fondamental, mais dans un domaine qui est éminemment appliqué, quoi. Et donc, à force de je me suis lancé là-dedans sans forcément connaître les applications de la microfluidique, mais à force d'aller à des congrès, des conférences, des trucs comme ça, j'ai finalement découvert qu'il y avait tout un monde industriel qui utilisait les technologies ou le milieu de la microfluidique dans lequel j'étais. Et je suis curieux à la base. Et donc, je me suis intéressé à tout ça. J'ai eu une thèse qui était très productive. J'ai déposé 4 brevets en l'espace de 2 ans. Les 2 premières années. Et donc, au bout de la 3e année de thèse, là, je me suis vraiment posé la question, OK, c'est bien, j'ai déposé des brevets, ces trucs qui traînent dans un placard ou dans un tiroir à l'école polytechnique, et qu'est-ce qui leur arrive après ? Et cette petite recherche, en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que si le chercheur, c'est-à-dire si moi, je ne m'en saisis pas personnellement pour faire la valorisation, en fait, ce truc-là ne servira jamais à rien. Sera pas valorisé, ce sera juste une ligne sur la liste des brevets de l'école polytechnique.
Donc parce que donc là, tu peux parler un petit peu de tes brevets ou c'est public de toute manière. Donc c'était quoi vraiment très très.
C'était des brevets. C'est pas si simple à expliquer. En fait, le principe même de la PCR digitale, donc cette nouvelle technologie qu'on a mis au point, c'est de prendre un échantillon biologique. Et plutôt que de l'analyser dans son entièreté, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va le casser en tout plein de petits morceaux. Donc, au départ, c'est un échantillon biologique liquide, donc c'est une grosse goutte, et on en fait des dizaines de milliers de toutes petites gouttes.
D'où la microfluidique.
Et moi, j'avais développé une technologie qui permettait, était déposé des brevets, qui permettait de prendre une goutte et d'en faire des dizaines de milliers de petites gouttes.
D'accord.
Voilà, c'est une technologie de partitionnement ou d'émulsification.
De division d'un échantillon en plein d'échantillons beaucoup plus petits. Ça avait des propriétés, je suppose, pour aider à en faire l'analyse ou des choses comme ça, c'est ça?
Bah, en fait, et puis moi, je me suis intéressé à ça, pas forcément avec en tête l'application PCR digitale, en fait. Et c'était juste une manière de créer plein de petites gouttelettes qui faisaient toutes la même taille. Ça peut servir à plein de choses, en fait. Des émulsions, on en trouve partout autour de nous. Si tu prends de la mayonnaise, c'est une émulsion. Si tu prends du shampoing, plein de crèmes dans le domaine de la cosmétique, c'est des émulsions. Il y a toute une industrie autour de l'émulsion qu'on ignore mais qui est importante. Et donc, première étape après avoir déposé ces brevets et me dire bon, il faut que je valorise ces technos, c'était passer à peu près un an à éplucher un peu toutes les applications possibles.
Tu as vraiment fait le switch, c'était quoi la dernière année de ta thèse ou c'était, ta thèse était déjà.
Non, dernière année de thèse.
Donc là, tu t'es vraiment dit, tu avais le temps, ton maître de thèse était OK pour que toi tu ailles plus vers le monde des cas d'usage et des applications.
Ça, j'avais un directeur de thèse qui était très intéressé par la valorisation des technologies, qui s'intéressait aussi à. Qui n'était pas juste dans la recherche fondamentale. Tu vois. Il était aussi intéressé par chercher, mais pour que ce soit utile. Et donc là, pour lui, il a vu mon initiative, c'est une bonne initiative. Il s'est dit, peut-être enfin un chercheur qui va faire quelque chose avec ses manips de coin de labo. Quoi. Voilà.
Trop bien. Et donc là, cette année-là, t'as démarré donc une espèce d'exploration marché, en fait. Enfin,
des
produits que tu pourrais faire avec.
Ouais, c'est ça. Donc d'abord un peu tout seul, puis après j'ai fait des stages là avec l'INSEAD, des mecs de l'INSEAD qui sont venus aussi s'associer à nous, essayer de nous aider dans notre recherche.
C'est une école design, c'est ça?
Non, INSEAD MBA, MBA de l'INSEAD à Fontainebleau. Et puis c'est comme ça qu'après finalement j'ai découvert cette application de PCR digital. Enfin, c'est la PCR digital, le concept existait déjà à l'époque, mais je me suis rendu compte qu'en fait j'avais des outils technologiques qui permettaient de le mettre en œuvre de manière beaucoup plus efficace que ce qui était fait à l'époque.
Tu te rappelles un petit peu comment t'as commencé à arriver cette découverte? C'était après plusieurs salons, après des échanges?
Ouais, c'était des congrès, éplucher un peu la littérature. En fait, la microfluidique et le domaine de la génétique, c'est deux domaines qui étaient assez perméables. En fait, la microfluidique a soutenu beaucoup d'innovations dans le domaine de la génétique et tout, donc j'étais assez exposé à tout ça. Je me souviens plus de la date exacte, mais c'était 2011, quelque chose comme ça. Et donc ça m'a plu, parce qu'il y avait des applications dans le domaine industriel, émulsion industrielle, tout ça. Et puis là, bah là, c'était une application où il y avait un vrai fit entre un problème, un pain point pour les gens qui voulaient faire de la PCR digitale. Ils avaient du mal à générer ces partitions.
Tu avais déjà identifié ce pain point-là.
Ouais.
Vraiment, tu l'avais validé avec des interviews. Enfin, t'avais
parlé. C'était un challenge à l'époque. Enfin, le concept de PCR digitale, en fait, je suis en 2011. La première personne qui a décrit cette approche de PCR digitale dans un papier scientifique, c'était en 99. Donc ça avait déjà 12-13 ans, quoi. Mais sauf que conceptuellement, les gens se disaient, ça serait super de prendre une petite goutte et d'en faire des dizaines de milliers de gouttes et de faire de l'analyse génétique sur chacune d'entre elles. Mais ils n'avaient pas encore réussi à... Enfin, ils avaient déjà mis en place des process pour le faire, mais c'était assez lourd, c'était assez coûteux, c'était long. Et donc là, je me suis dit, moi, j'ai un truc sympa pour le faire de manière simple, efficace.
D'accord, donc là, tu avais même vu des compétiteurs, en fait, des futurs compétiteurs où tu avais vu leur...
Il y avait déjà un compétiteur sur le marché, il y avait déjà un acteur sur le marché, il y en avait un deuxième qui se lançait. Donc, c'était... Le domaine était déjà existant, il y avait un marché, il y avait des usages.
Avec ma techno, je vais faire un truc mieux que ce qui existe déjà aujourd'hui.
Ouais.
D'accord.
Exactement. Voilà. Et donc c'est à fin de ma thèse, fin 2012, hein, fin 2012, où je me suis dit, je vais me focaliser là-dessus. La valorisation, ça va être dans le domaine de la PCR digitale. J'avais jamais fait de génétique de ma vie, j'y connaissais rien, mais je me suis dit, c'est ça que je vais faire.
D'accord, parce qu'il faut passer de la microfluidique à la génétique. Et donc là, qu'est-ce que tu te dis en tant que chercheur qui se dit, je veux finir ma thèse, devenir entrepreneur. C'était quoi ton premier réflexe? Trouver une équipe
Ouais, trouver une équipe, essayer de m'intéresser un peu à comment ça fonctionne. Et donc pour ça, là où ça a été utile, c'est qu'en fait, ma copine de l'époque qui est devenue mon épouse, elle avait fait HEC Entrepreneur avant.
D'accord.
Et donc j'ai soumis mon projet dans le cadre du master HEC Entrepreneur pour qu'il y ait des étudiants qui bossent dessus. Donc pendant 3-4 mois, j'ai eu des étudiants d'HEC Entrepreneur qui m'ont aidé à construire un business plan qui tienne un peu la route. Et il se trouve qu'en fait, il y en a un des premiers membres de l'équipe, ça a été un des élèves de l'époque HEC Entrepreneur qui a fait cette première mission avec moi et qui est du coup resté, quoi. Donc c'est...
Ah, trop bien.
Et après, il a fallu encore aller chercher d'autres associés parce que moi, j'étais pas dans la biologie, j'avais jamais fait de PCR ou de génétique. Et donc, j'ai passé aussi à peu près un an à essayer d'aller chercher des compétences complémentaires pour avoir un noyau de fondateurs qui se maîtrise à peu près.
Donc ça, tu as été accompagné dans cette phase-là par un incubateur ou un programme ou des choses comme ça, ou pas du tout? Non, c'était juste...
Non, pas encore. Après, on a été pris dans un incubateur, Incuballiance, là.
Mais à ce stade-là, c'était juste toi, tu savais qu'il te fallait des compétences. Et celui de HEC Entrepreneur, tout de suite, là, tu as fait la mission et après, tu t'es associé avec lui ou...
Ouais, en fait, lui, il a fait la mission, je pense que c'était fin 2012 à début 2013. On a monté la boîte en septembre 2013. Donc il y a eu une phase entre deux où la boîte n'était pas créée, mais en fait j'avais obtenu une bourse académique là pour faire la valorisation.
Ah oui, il y a des financements pour financements les chercheurs à faire ça.
Et donc j'avais de l'argent et donc en fait j'ai l'étudiant d'HEC Entrepreneur qui avait fait HEC avant était devenu ingénieur du CNRS. Hein. On l'a recruté en tant qu'ingénieur du CNRS.
Comment ça?
Avec cette bourse, moi, je pouvais recruter des ingénieurs ou des assistants ingénieurs. Et donc, lui, pour le payer, parce que donc lui, il avait fini HEC Entrepreneur. Et donc, pour le payer, je l'ai payé en tant qu'ingénieur du CNRS.
On espère que l'organe du contrôle de CNRS n'écoute pas ce podcast.
Je pense que ça ne va pas les déranger parce qu'au final, ils n'ont rien perdu au change.
Mais oui, c'est très important qu'il y ait des profils complémentaires qui travaillent.
Et donc au départ, on était une boîte mais qui vivait encore dans le laboratoire, qui était encore dans les locaux, qui était payée par les fonds du laboratoire que j'étais allé chercher.
D'accord, donc c'était à la fin de ta thèse, tu allais chercher aussi un petit peu des fonds du laboratoire pour leur valoriser ça. Ils avaient une enveloppe.
En fait, on allait chercher au niveau de l'Union européenne. Enfin, il y a des programmes tout ça de valorisation de technologie.
Tu te rappelles à peu près combien tu avais réussi à récolter dans cette phase-là?
C'était 150K. 150K le projet de maturation, et ce qui était quand même hyper utile. Ça nous permet de financer des preuves de concept, de payer, j'avais pu payer le mec d'HEC, mais j'avais aussi pu payer une personne qui nous a rejoint aussi en tant que fondateur sur la partie biologie moléculaire. Donc j'ai pu en fait recruter mes associés, mais c'est quand même plus facile de recruter des gens compétents quand tu as un peu d'argent pour les payer que quand tu vas leur dire « viens faire ça bénévolement ». Là, il n'y a que ton idée pour les convaincre.
La vision, le marché, voilà.
Ça peut marcher, mais c'était quand même utile d'avoir un peu d'argent.
D'accord. Et donc, le deuxième associé clé, tu dis, c'est la personne en biologie moléculaire.
Biologie moléculaire. Ouais.
Comment tu l'as trouvé ? Est-ce que c'était difficile, facile ?
Ça a pris du temps, mais là, c'était un peu job offer classique, recherche. pas recherche associée. À l'époque, on cherchait en fait. Une chercheur en biologie moléculaire, donc on a posté, pareil, c'était sous un contrat du CNRS, quelqu'un qui voulait faire de la valorisation de techno, on a orienté un peu la fiche de Prost pour aller chercher des gens un peu entrepreneuriaux dans l'état d'esprit, et puis
voilà. Ok, mais donc c'était un poste de salaire,
d'ingénieur du CNRS, encore une fois, ouais.
D'accord.
Mais derrière, c'était clair que c'était pour monter la boîte.
Ah oui, d'accord. Et là, tout de suite, tu leur proposes des parts et l'association de partnership.
Ouais, au départ, ils rejoignent le projet plutôt pour travailler ensemble.
Ça se passe bien.
On fait la preuve de concept, puis en même temps, on aboutit dans l'idée de création de la boîte. Et puis, on discute, partage de parts, etc.
Ouais. Ça, c'était avant que la boîte soit vraiment créée. C'était juste avant, c'est ça.
Ouais, juste avant.
Et donc, dans cette phase-là, juste avant, il y a deux points qui sont souvent à valider dans ces projets-là. Tu as mentionné un prototype. Donc, qu'est-ce que c'est comment, par rapport aux travaux de recherche, quel est le bon prototype ensuite que tu as fait là avec ces 150 000 euros qui peuvent paraître beaucoup mais qui sont peut-être pas beaucoup en fait dans le secteur.
Ouais, ce qui est pas énorme, non, c'était du bricolage encore, c'était vraiment du bricolage. Mais dans cette phase-là, on a pu, avant de monter la boîte, on a pu montrer qu'on était capable de faire une PCR digitale. On était capable de faire ce procédé de prendre un échantillon, le partitionner en dizaines de milliers de petites gouttes et faire une analyse génétique.
Faire l'analyse, jusqu'à l'analyse. Donc, ouais. Ta thèse était vraiment sur la partie...
Et alors, c'était encore un protocole hyper bricolé, des trucs de coin de table, ça, c'était invendable et tout. Mais au moins, on se dit, OK, le truc fonctionne.
Ouais,
il a fonctionné une fois.
C'est vrai?
Non, mais il a fonctionné une première fois et après il a planté 10 fois avant qu'il fonctionne une fois et il a replanté 10 fois après. Mais le truc peut fonctionner.
Ouais, donc c'est ça, les 150 000 euros ont servi à financer une vingtaine d'expérimentations dont.
Une
a marché.
Et ça a pu faire une jolie figure, un truc pour montrer aux gens, ouais, ça marche.
Ok, donc là on parle vraiment, quand on dit prototype, pour qu'on soit représenté, on parle pas du tout d'une machine avec des capteurs, on met le truc dedans et ça marche. En fait, là c'est plutôt des bancs d'essai enchaînés,
ouais.
À la mano, d'abord tu fais une première opération, ensuite une deuxième, enfin quoi ça ressemblait le prototype, c'est dans une salle, c'est...
Ouais, c'est un assemblage d'instruments, mais moi j'étais très bricoleur, donc pour moi il y a deux outils ultra utiles dans la recherche, le scotch et l'huile. Et donc quand il y a un truc qui tenait pas assez bien, on mettait un coup de scotch, et quand il y a un truc qui bloquait, on mettait un coup d'huile. Et voilà, c'est à peu près ça l'état d'esprit du bricolage qu'on faisait, donc c'était vraiment de la manip.
Beaucoup de gens voient la recherche effectivement fondamentale comme un truc qui est très très théorique. Et c'est... Voilà, mais après, dès que tu passes à l'appliquer, il y a quand même beaucoup de bricolage en fait.
C'est
très très manuel. Il faut tester des choses, expérimenter, créatif. C'est ok. Donc, ça c'est vous bidouillez et il y a une expérience qui marche de bout en bout. Et vous dites, ok, on a la bonne équipe et on est sur la bonne voie pour que ça marche de manière industrialisée plus tard.
Ouais.
Et le deuxième point, c'est comment vous prouvez le marché. Est-ce que c'est dans cette phase-là aussi où on vous demande aussi de prouver le marché ou ça a déjà été fait par les compétiteurs qui sont déjà sur le segment ? Est-ce que ça, c'est...
Il y
a d'autres validations que vous avez cherché à comprendre sur le type de produit, le positionnement, la techno à développer à ce stade-là ?
Non, il y a déjà des compétiteurs et en fait, en parallèle de ce processus de réflexion et de création de la boîte, en fait, il y a une start-up aux US qui se positionnent ici sur la PCR digitale et qui se font racheter pour 100 et quelques millions de dollars avant d'avoir le produit commercialisé.
D'accord.
Donc là, tu te dis, l'idée n'est pas complètement con. Est-ce que ce que je fais est encore bien différencié par rapport à cette boîte ? Oui. Donc, est-ce qu'il y a de la place pour plusieurs acteurs ? Oui. Bon, on va continuer, quoi. Et donc, le marché, c'était assez facile de convaincre qu'il y avait un marché quand même.
Ça, c'est souvent le cas sur les startups dites deep tech qui reposent vraiment sur un asset technologique fort. C'est qu'effectivement, si ça change un marché qui est déjà existant et toi, tu peux regarder la tech et dire « bah oui, je pense qu'on a toujours un edge technologique de X% sur ce marché-là, etc. Sur l'aspect validation marché, ça peut être parfois plus simple de convaincre que pour des startups plus classiques où faut se battre pour ça. D'accord, donc là, vous finissez cette période, vous créez la boîte.
Oui.
Vous avez déjà levé des fonds à ce stade-là ou
Non, au départ, on a fait du bootstrapping où j'avais déjà les fonds un peu de du laboratoire. Et en fait, on a levé des fonds. La première, la série Seed, c'est en 2015. Donc pendant deux ans, on a vécu avec de la subvention, du prêt d'honneur, des trucs comme ça. Mais on a quand même, je pense, sur la période, on a dû récupérer 1 million ou peut-être presque 1,5 million.
D'accord. Non dilutif.
Non dilutif. Et c'est là où l'écosystème français est quand même hyper, hyper bien structuré et assez généreux pour financer des startups comme une boîte comme Stila. À l'époque, j'avais écrit un peu la recette de cuisine pour passer de. Au départ, on avait mis au total 60 000 euros de fonds propres.
Mm-hmm.
Et ces 60 000 euros de fonds propres, via un peu des leviers sur du prêt d'honneur, puis après des subventions, il y en avait plein là, les concours BPI, concours au niveau de l'Europe. Tu fais levier, et t'arrives à transformer ces 60 000 en 1 million, quoi. Donc tu fais un fois 15, chaque euro que tu mets en fonds propres, tu fais fois 15 dessus pour financer ta boîte.
Trop bien.
Et ça, je pense que ça marche encore aujourd'hui.
Ouais. Et vous avez eu le cash qui est arrivé, enfin, parce qu'il y a eu récemment des histoires de fonds européens, de grosses subventions qui ne sont jamais arrivées sur le compte de certaines boîtes deep tech et qui ont coulé les boîtes.
Non, en tout cas, nous, ça a marché.
Vous, ça a marché. D'accord. Et donc, après, dans cette deuxième phase-là, qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous organisez? Est-ce que tu recrutes beaucoup plus ou alors vous continuez en mode bootstrap?
C'est encore un peu assez bootstrap dans l'esprit parce que c'est assez dur de lever en fait parce que la crédibilité qu'on peut avoir je sors de thèse, j'ai une équipe pareil de type assez jeune, on est tous à peu près à première expérience professionnelle, c'est notre premier job et là t'essayes d'aller voir des VC, tu leur convaincs que tu vas sortir le produit le plus technologique du monde dans un domaine qui est complexe et réglementé. Il y a une force de conviction qu'il faut avoir, mais c'est pas facile quoi. Donc c'est assez dur de lever.
Vous avez essayé quand même?
Mais clairement, je me rends compte que c'est pas facile et du coup, qu'il faut qu'on puisse démontrer qu'on avance. Ouais. Donc on exécute sur le plan, qu'on exécute le plan de développement produit, qu'on arrive à les convaincre des utilisateurs de dire du bien de ce qu'on fait, de nos produits, etc. Et donc c'est pour ça qu'on fait cette étape de bootstrap sur du fonds propre pendant 2 ans avec 1 million d'euros, donc on n'a pas énormément de moyens. Donc là, on est une équipe de maximum 10 personnes. Et on développe, on aboutit le prototype. C'est encore une phase de prototypage. On développe les protos, mais de plus en plus aboutis, qui permettent qui ne marchent pas qu'une fois sur 10,
ouais.
Qui commencent à marcher 9 fois sur 10. Et qui permettent de faire des démos, de collecter des études scientifiques qui montrent que le truc fonctionne, à des applications concrètes, etc.
Et là, vous faites des premières démos clients? Donc, pas encore client,
mais auprès d'utilisateurs.
Potentiel utilisateur.
Ouais.
Donc, il y a les premières démos. Et qu'est-ce qui vous rappelez un petit peu des retours ou de ce que ça vous a apporté
Surtout en fait, des industriels, tu vois, des acteurs industriels du secteur qui justement s'intéressent à la PCR, qui font déjà de la PCR classique, qui s'intéressent à la PCR digitale, qui viennent nous voir et qui nous disent ouais, c'est quand même intéressant cette approche et tout. Donc, on voit qu'il y a un intérêt. Des acteurs établis sur la techno. Et ça se passe assez bien.
Et est-ce qu'à ce stade-là, il y a souvent quelque chose qu'on conseille aux boîtes deep tech, c'est de demander des LOI, des letters of intent, donc des espèces de contrats qui n'ont aucune valeur juridique, mais juste marqués sur le noir sur blanc et qui sont quand même signés par l'industriel, de dire si votre machine elle arrive à tel type de performance pour tel prix et pour tel output, je serais sûrement intéressé pour l'acheter peut-être quoi.
On l'a pas fait avec des industriels, ça j'ai fait avec des investisseurs, ce qui est un des leviers possibles, mais pas avec des industriels.
Tu l'as pas fait avec les clients directs quoi, tu dis juste il y a lui que j'ai rencontré, il m'intéressait et ça suffisait. Donc là on a mentionné au début que cette plateforme que tu construisais pouvait servir en fait de très très nombreuses applications. Est-ce qu'à ce stade-là, vous essayez de voir vers quelle application vous pourriez plutôt tendre Ou alors, ça servait pas à grand chose à ce stade encore.
En toute l'histoire de Stila, en fait, on a été assez schizophrène. Parce qu'en fait, si j'essaye de pitcher un investisseur, voilà, j'ai une techno qui peut faire plein de choses, en fait, le type, il est perdu, il comprend pas ce que tu fais, quoi. Donc, c'est pour ça que, tu vois, dans l'intro, même j'ai dit, la première application qu'on vise, c'est diagnostic et suivi de cancer par prise de sang. Ça, les gens, ils ont compris, quoi. Et donc, en fait, on avait un discours qui était orienté très là-dessus. Mais après, derrière, on ne s'est pas fermé de porte. Parce que le problème de l'application diagnostic et suivi de cancer par simple prise de sang, c'est qu'avant d'arriver au marché sur cette application-là, là, tu vas ramer.
Réglementaire, santé, énormément.
Ouais, t'as de la règle, enfin, tu dois passer, t'as des contraintes, des barrières réglementaires, donc t'es parti sur des années d'études cliniques, etc. Donc, en fait, ça, c'est l'histoire que tu racontes. Mais derrière, mes premiers clients, ils faisaient pas ça du tout.
D'accord. Et donc, ça, dans cette phase-là de, pour des pages produits, il fallait les rencontrer un peu tous, quoi. Tu rencontres des autres. Donc là, t'as rencontré quoi de tout,
tu vois, on a des premiers, bah là, on n'est pas encore au premier client, mais après en 2017, là, quand on va avoir nos premiers clients, le premier client, ça va être, premier client, c'est Servier, qui veut utiliser nos technos pour faire de la recherche dans l'industrie pharmaceutique. On va avoir ensuite l'Institut européen de métrologie qui veut utiliser nos trucs pour normaliser les critères de détection d'OGM. Enfin, on va avoir autant de clients qu'il y a autant d'applications qu'on a de clients au départ.
Ok.
Mais tu fais comme ça, quelques dizaines de clients qui font des choses diverses et variées. Et pour nous, ça, c'est super d'un point de vue
boîte, marché.
Parce qu'en fait, ça permet de voir où est-ce que ça va maturer, où est-ce que les applications vont se développer vers un marché qui a du potentiel. Mais on ne peut pas raconter ça. Quand tu lèves des fonds, tu ne peux pas dire ça, quoi. C'est un peu absurde. Mais, enfin, un peu schizo, mais ça, c'est un vrai conseil. Je pense que s'il y a des boîtes qui ont comme ça un potentiel assez large d'application, ça peut être casse-gueule de dire on va tout faire.
Donc, dès le début, vous avez identifié ce premier pitch sur la détection du cancer.
Ouais.
Ça, c'est celui-là que tout le monde comprenait.
Mais ça marche. Tout le monde connaît quelqu'un qui a un cancer. Tout le monde sait que pour détecter, faire un diagnostic de cancer, il faut faire de l'imagerie. C'est long, c'est chiant, ça coûte cher. Il faut aller à l'hôpital. Donc, tout le monde connaît, comprend qu'il y a un pain point autour du diagnostic et du suivi de cancer. Et tout le monde comprend facilement que si t'es capable de faire ça par simple prise de sang,
Trop bien. Donc là, vous avez ce bootstrapping 1,5 million qui vous amène jusqu'à où environ ? Jusqu'à
mi-2015.
Mi-2015.
Donc quasiment 2 ans. Et là, on fait une série seed. C'est série seed 1,5 million. Et au final, on va faire la série seed avec...
Toujours sans premier client à ce stade, hein. C'est 2017.
On termine le développement produit et on lance le premier système en fin 2016-2017. Et donc là, série seed, et on finit par prendre l'argent auprès d'un business angel, après avoir sollicité aussi beaucoup de fonds.
D'accord.
Mais toujours assez pénible pour convaincre des fonds de nous faire confiance.
Ok.
À cette époque-là, problème du manque de cheveux blancs.
Tu penses ?
Ah oui, clairement.
C'était ça le problème clé ? C'était pas un serial entrepreneur
Non, dans l'équipe, la personne la plus âgée avait 35 ans, moi j'avais pas 30 ans. Et donc t'as quand même c'est toujours dur de, enfin, en tout cas dans un secteur comme ça, c'était assez dur de convaincre dans des investisseurs un peu classiques de mettre de l'argent. On a eu des offres, mais au final on a eu des moins bonnes offres que sur via un BA.
Et pour être un business angel et investir là-dedans, faut s'y connaître. Enfin, c'était un...
Ouais, en l'occurrence celui qui investit chez nous, il s'y connaissait un peu, mais pas beaucoup. Il était conseillé par quelqu'un qui s'y connaissait. Donc il nous a aidé pendant 2 ans, mais ça a mal fini.
Ok.
avec ce business angel, mais on en parle plus tard.
Pour l'instant là tu réussis à lever.
Voilà, on réussit à lever, et donc là on a 1,5 million. Là encore une fois, tu peux faire un peu levier avec du prêt auprès de BPI sur la base du montant que tu as levé, donc tu peux à peu près récupérer le double en non dilutif, et ça nous permet du coup d'industrialiser les protos et de sortir notre premier produit, premier système d'analyse génétique de précision, avec des moyens qui sont encore ultra limités, hein, si tu compares à ce qui se fait chez des boîtes qui font des choses similaires, notamment aux US et en Allemagne. Nous, on a mis quoi ? On a claqué 4 millions pour sortir le premier produit, où il en faut plutôt 15 à 20, classiquement.
Là, oui, effectivement, aux États-Unis, ça peut aller très très vite, les montants sur la table. Et donc, pour qu'on comprenne bien, effectivement, tu as mentionné industrialisation, et c'est un mot qu'on a revu après, qui est un truc classique des deep tech, c'est vraiment passer du premier prototype qui fonctionne, du coup, là, 20 fois sur 20, en fait, c'est ça, en labo. Après, il faut l'industrialiser. Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous, ça ? Ça veut dire le mettre dans une machine,
créer
des usines qui assemblent quelque chose, un produit qui, à la fin, fait tout bien marcher en stand-alone, qui ne coûte pas trop cher, c'est ça ? Il faut trouver l'usine, il faut trouver le partenaire.
Encore là, je parle d'industrialisation, et puis c'est une début d'industrialisation, ouais. Il a fallu encore 7 ans derrière pour arriver à vraiment arriver au truc qui est vraiment bien industrialisé. Et c'est là la différence entre les 4 millions et les 20 millions, c'est que nous, on a fait les premiers pas d'industrialisation. C'était encore un peu de l'artisanat, tu vois, à l'échelle de l'industrie. Mais au moins, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'effectivement, on prend un proto et puis on s'assure qu'on peut reproduire ce prototype en série. Donc des petites séries, mais encore en série, et qu'on a des performances qui sont identiques sur ces différentes séries qui sortent. Et encore, ça merde un paquet de fois à ce stade-là. Mais voilà, tu montres que tu as un process et que tu as des outils de production qui permettent de produire un produit.
Et ça, comment vous avez fait ? Parce que ça, tu l'avais jamais fait avant. Enfin,
non, voilà, c'est pour ça que c'était encore assez artisanal. Tu vois, on n'était pas dans une logique industrielle de chaîne de production taylorisée et tout. Mais après, on fait appel à des fournisseurs, à des sous-traitants, parce qu'on ne sait pas tout faire. On est sur un produit qui est très complexe. Il y a des consommables plastiques, il y a de l'instrumentation, il y a du logiciel. Donc, on essaie de trouver des partenaires qui peuvent nous faire les briques dont on a besoin. Et sur ce premier produit, en fait, j'ai une approche... encore une fois, un peu de bootstrap, où je me dis, je vais essayer de réutiliser des blocs fonctionnels d'instruments qui existent déjà.
D'accord.
Et de les repackager dans un instrument qui convient à ce que je veux faire moi. Mais je vais éviter de redesigner des trucs from scratch. Tesla, ils faisaient un peu la même chose au départ quand ils ont sorti leur premier modèle. D'accord. Ils ont pris les châssis Lexus, ils ont bossé avec Lexus pour reprendre des pièces qui existaient déjà, qui étaient déjà industrialisées par quelqu'un d'autre, pour pouvoir bâtir un nouveau produit sur un socle existant. Et nous, on a eu cette même approche-là, beaucoup plus modestement, parce qu'on ne faisait pas à la mode Tesla. Mais c'est cette logique-là, et c'est une logique qui a vraiment ses vertus sur une logique d'accéder rapidement au marché. Parce que tu vas éviter de réinventer l'eau tiède 10 fois sur des trucs basiques et tu vas t'appuyer sur des process industrialisés qui existent déjà chez quelqu'un d'autre. L'inconvénient, donc l'avantage, c'est que ça va plus vite et ça coûte moins cher. L'inconvénient, c'est que tu vas dépendre de tiers et que ton produit, il n'est pas forcément 100% optimisé pour ton besoin à toi. Tu vas hériter aussi des défauts et des faiblesses de tes fournisseurs.
Tu peux donner un exemple de pièce qui était comme ça, qui était assez critique pour vous, vous ne l'avez pas...
Ouais, par exemple, dans nos systèmes, dans notre process d'analyse génétique, à la fin, il faut faire une lecture en fluorescence, en gros, faire des photos en couleur un peu particulières de toutes nos micro-gouttelettes, donc un microscope qui prend des photos un peu particulières. Là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a designé un consommable qui puisse aller se mettre directement sur un de ces microscopes qui existait déjà. Et donc, en fait, on a plutôt essayé de faire en sorte que notre consommable il s'adapte à un truc qui existe déjà sur le marché, qui est déjà sur étagère, plutôt que de faire l'inverse. Et donc ça a permis d'accélérer et de simplifier le développement où on ne s'est pas soucié de la partie
microscope,
optique, etc. Je suis allé voir des gens qui avaient ces instruments sur étagère. On a trouvé un partenariat, on a signé un deal avec l'un d'entre eux qui nous autorisait à le faire en marque blanche. Donc en fait, on a mis notre logo sur son produit, mais c'était son produit. On l'achetait avec un prix d'amis, on le revendait avec un markup, quoi. Et donc c'est ce genre d'approche qui permet d'accéder plus rapidement au marché, essayer de découper le process, découper le produit en sous-produits. Et se focaliser sur le développement que de la partie clé où il y a vraiment ton savoir-faire.
Oui, ton savoir-faire, exactement. Ah ouais, hyper intéressant. Et c'est vrai qu'en fait, on le fait en software, généralement avec des librairies open source où tu reprends toujours plein. Enfin, c'est très naturel en software. Mais là, on parle vraiment de fabriquer une boîte.
En hardware, déjà.
L'instrumentation en hardware, il y a plein d'éléments. Voilà.
Et tu peux le faire. Et la difficulté du hardware, c'est que c'est beaucoup moins accessible. Et donc, tu as une phase, tu prends des mois à juste essayer de trouver. Parce qu'en fait, faut pas aller regarder juste le produit sur catalogue, il faut aller l'ouvrir, il faut aller regarder l'intérieur, donc il faut aller sur place, il faut aller visiter les fournisseurs, donc ça c'est assez long.
Ça c'est toi qui gérais toute cette partie-là ou t'avais recruté quelqu'un dans l'équipe ou dans l'équipe fondatrice qui était expert de l'industrialisation hardware ?
Personne n'était expert d'industrialisation hardware.
Vous avez tout appris même sur tout ça.
Mais j'avais un associé du coup qui avait fait sa thèse avec moi, qui lui bossait pas mal, enfin qui était à temps plein là-dessus. Et moi en tant que CEO, à cette époque-là qui était le cœur, c'est quand même le développement produit, j'étais aussi beaucoup dessus. Ouais.
D'accord. Vous étiez combien d'associés ? C'est mentionné celui-là, mais donc il y avait.
on était 5 au départ.
5 associés.
Oui, il y avait donc j'en ai mentionné 2, l'HEC, biologie. J'avais un 4e associé exécutif qui était un ancien pote de thèse du même labo, et puis en fait mon directeur de thèse qui était aussi associé mais qui avait des parts mais qui n'avait pas de fonction dans la boîte.
Ok, et ça s'est passé comment ces premières années avec les associés? C'est difficile parfois d'avoir autant d'associés à la barque. Vous avez réussi à bien vous répartir les rôles et tout ça? Il y avait des trucs que tu as appris dans cette période?
On était quand même bien complémentaires. Il y avait tellement de trucs à faire qu'on ne se marchait pas sur les pieds. Là, il n'y avait pas de souci. Et puis, on était hyper différents les uns des autres. Ça, je pense que c'était une force. Il n'y en avait pas deux personnes pareilles quasiment dans l'équipe des associés. Donc, chacun avait... sa légitimité, et puis généralement on n'avait pas besoin d'avoir un débat d'idées parce qu'en fait il n'y en avait qu'un seul qui avait la légitimité pour avoir la réponse à une question.
Tout le monde avait toujours raison sur son domaine, quoi.
Ouais, sur son domaine. Non, mais c'est vrai, c'était un peu ça, quoi. Donc au moins ça permet d'avancer vite.
Ok, donc là vous battez toujours au même laboratoire ou faut aussi changer de lieu et tout ça?
Ouais, on a dû déménager, aller à Villejuif, là où on est aujourd'hui, dans un bioparc. Pépinière d'entreprise. Mais bon, ça, c'était c'est assez tranquille dans l'aventure tumultueuse du développement produit. Le déménagement, c'était pas le plus compliqué.
Tu te rappelles d'autres trucs qui étaient tumultueux dans cette période-là?
En fait, c'était une période qui était très productive. Ça a vraiment très, très bien avancé. Et en fait, c'est plutôt la fin de cette période, donc avant notre série A, où là, les choses se sont emballées.
D'accord.
En fait, ce qui s'est passé... Et ce qui était, c'est qu'on a, on était vraiment proche du marché. On avait un produit qui commençait vraiment à ressembler à quelque chose. Et donc on a été sollicité de la part de gros acteurs industriels qui, du coup, on était à un moment où on pouvait vendre la boîte, clairement.
D'accord.
Et donc là, je me suis dit, pourquoi pas regarder le truc à fond.
Leur intérêt, c'est d'acheter le produit au moment où c'est déjà très dérisqué quand même sur le fait que ça marche.
Ouais.
Ensuite, eux, tout réinternaliser, le vendre sous leur nom et eux, faire le business.
En fait, les gros acteurs du secteur des biotech et du diagnostic, ils ne savent pas développer des nouvelles
technologies.
Ils
ne
font plus de R&D. Et donc, ils sont dans des logiques plutôt d'agrégation. Et donc là, on se lance dans ce process de vente de la boîte.
Pourquoi vous le faites? Parce que tu te dis...
Parce qu'il y a une opportunité, clairement.
Une opportunité.
Et puis, on est un peu à un tournant dans l'histoire de la boîte. C'est-à-dire que tu as un moment où nous, ce qu'on savait faire, c'était développer un produit.
Oui.
La phase d'après, c'est une phase où tu peux clairement te prendre les pieds dans le tapis. C'est le moment où tu dois commencer à vendre. Et là, tu dois vraiment penser à industrialiser aussi. Donc, tu passes sur d'autres problématiques.
C'est très différent. Ouais.
Et donc, il y a des sollicitations. On se dit, si on trouve des types qui savent très bien vendre nos produits et qui veulent nous racheter à un prix correct, pourquoi pas, quoi. Et donc, on fait ce process. Et donc là, on finit par avoir des offres qui sont... notamment une offre qui dépasse quand même les 100 millions.
Pas mal.
Ce qui était assez fou, quoi. Mais en même temps, on avait un peu remué le marché aussi. Et donc, c'est à ce moment-là aussi qu'un de nos concurrents qui était déjà sur le marché aux États-Unis commence à nous menacer de nous coller un procès en contrefaçon. Donc nous dit moi j'ai des brevets qui vous empêchent, qui protègent la techno que vous êtes en train de mettre en place, donc vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites, quoi.
C'est la guerre, c'est pour ça que les grands industriels adorent déposer des brevets sur un peu tout, c'est ensuite pour pouvoir se défendre si quelqu'un d'autre prend le brevet, etc. Voilà. Mais là, tu t'es fait, c'est entre start-up, disons.
Non, c'est pas une start-up, c'est un grand groupe.
C'était
un grand groupe, ouais, tout à fait.
Mais du coup, défensivement, ils te disent ok, on y va.
Ouais. Et donc là ça a été un sacré roller coaster parce qu'en fait on était à 48 heures du closing quand la menace s'est confirmée et donc le mec de la boîte qui voulait nous racheter finalement se retire du tour.
Voilà.
Et là c'est compliqué parce qu'en fait le business angel, lui, il avait vu le jackpot, hein, parce que lui il a mis 1,5 million et il allait faire un fois 10 sur sa mise en 18 mois, quoi. Enfin, un truc et là tout d'un coup le truc s'effondre et donc faut complètement changer de plan et donc on se dit bon, on va pas réussir à vendre la boîte, il faut qu'on relève des fonds, il faut qu'on se lance dans la phase commerciale. Mais après, du coup, le business angel, lui, il est pas d'accord.
Lui, il était plus d'accord.
Il
disait, trouver une... Enfin, pas d'accord pour remettre ou pas d'accord pour la nouvelle stratégie?
Pas d'accord pour remettre. Lui, il disait, moi, je veux mes millions. Je les ai vus, ils étaient là, ils sont partis où, quoi.
Là, vous vous lancez dans une aventure qui, va durer un certain temps.
Ouais, du coup, là, c'est plus du tout la même logique. C'est... tu es dans une logique totalement différente. Tu sais que tu vas devoir industrialiser, commercialiser, que tu vas devoir gérer une menace en contrefaçon US. Enfin, donc tu...
Et comment ils ont su qu'à ce moment-là, vous étiez en train de vendre, en fait, comment...
Bah, c'est un petit milieu. Je pense que tout le monde se parle et tout le monde savait qu'il y avait une belle techno de PCR digital qui était sur le marché. Il y avait des offres qui circulaient. Les gens l'avaient testé, etc. Donc voilà. Mais ça ne m'a pas surpris, en fait. Hein. Ça, c'est un truc... Dès que j'ai créé la boîte, je savais que j'étais dans un secteur qui était très épineux d'un point de vue propriété intellectuelle, dans le domaine de la génétique. Le paysage des brevets, c'est quand même hyper complexe à naviguer et tout le monde se tire dans les pieds, quoi. Donc il y a des procès qui volent dans tous les sens. Donc on savait qu'on allait là-dedans. Donc on n'était pas non plus ultra surpris, mais
Vous l'aviez déjà anticipé au moment de la toi quand t'étais en recherche, en fait, quand tu posais les brevets, etc. Il y a toujours une analyse d'antériorité, c'est comme ça qu'on dit, je crois.
Ouais, liberté exploitation plutôt. Ouais, l'analyse de liberté exploitation. Ouais, qu'on avait faite.
Ouais.
Donc on savait qu'il y avait des risques. On avait aussi des arguments. On avait des confiances sur nous, notre point de vue, et je suis toujours qu'on avait la liberté d'exploitation, mais on savait que potentiellement d'autres n'allaient pas être du même avis que nous.
D'accord.
Et c'est pas un sujet noir sur blanc, en fait. Hein. Propriété intellectuelle, ça peut paraître un truc hyper objectif, mais en fait, non, ça ne l'est pas. Il y a une part de subjectif, c'est compliqué à gérer.
Ok.
Voilà.
Donc là, il vous menace, ça fait planter le deal, et vous vous remettez dans une... Et donc là, l'investisseur n'est pas content, mais qu'est-ce qu'il peut faire à ce stade? Enfin, comment ça se passe?
On change un peu de logique, on cherche à lever des fonds, mais on est déjà en train de vendre aussi. Donc on vend des produits. Première année 2017, on fait 1 million de chiffre CA.
D'accord. Là, c'est vos premiers produits. Vous les vendez déjà?
Ouais, on les vend.
Pourquoi donc là, ça marche commercialement?
Avec les moyens qu'on a, ça marche quand même plutôt bien parce qu'on fait ça. On a juste un commercial qui fait ça et qui génère 1 million de CA dans l'année.
C'est quoi le business model à ce stade?
Alors, à ce moment-là, on vend l'instrument, les consommables qui vont avec, on fait une bonne marge sur l'ensemble, et on vend ça à des laboratoires de recherche divers et variés qui font des recherches en biologie moléculaire, et qu'en fait, en biologie, en génétique, qui sont en train... Donc, nos clients du moment, c'est les gens qui inventent les méthodes, enfin, les méthodes de diagnostic de demain.
Tu vois, d'accord.
Donc, c'est un peu les pionniers de l'analyse génétique de précision dans tous les domaines possibles et imaginables. C'est de la recherche.
D'accord. Donc, eux, ils sont intéressés pour avoir les nouvelles technologies qui leur permettent de faire des analyses différentes.
Plus poussées.
Plus poussées, plus vite. Hein. C'était vraiment plus poussé.
Plus précise, plus sensible, plus riche.
C'était vraiment ça votre... D'accord. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant,
ouais.
En fait. D'accord. Ouais. Vraiment, vous voulez débloquer quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire avant en termes d'analyse. Et qu'on ait un ordre de grandeur, la fourchette à cette époque-là, c'était quoi pour une machine, pour un client?
À peu près 100 000 euros une machine, en gros.
Par an?
Non, par là, tu vends 100 000 euros la machine, donc
et après, les
9 comptes à 100 000, et après on avait à peu près quelques milliers d'euros de consommables par an, parce que c'est des usages de recherche. D'accord. Donc ils n'ont pas un usage ultra intensif de la machine, mais par contre ils sont prêts à payer upfront assez cher pour avoir le dernier jouet, le dernier cri.
Un grand truc de licensing pour l'utiliser, etc. Quoi. Donc, pas de recurring, il fallait chercher des nouveaux clients, etc. Donc les 1 million, c'est quand même une dizaine de clients.
Et donc après, donc on a une certaine traction, on a des clients, les clients sont satisfaits, ce qui permet du coup d'aller solliciter une levée de fonds et des investisseurs pour financer la suite, quoi. Mais avec cette épée de Damoclès que je peux pas cacher, quoi. Tu vois, je peux pas non plus dire aux investisseurs, oui, liberté d'exploitation, il y a aucun problème, les gars, allez-y, les fermez. Parce que j'ai reçu une lettre, donc je suis obligé de discloser ça. Et donc ça c'est un frein quand même assez fort. Et donc là, ça fait vite le tri, quoi. Moi, j'aborde le sujet cash, premier rendez-vous, je pitch le truc, je leur dis, voilà le contexte. Soit c'est un deal sur lequel t'es prêt à prendre le risque et à regarder. Moi, je leur dis, écoutez, le marché derrière, c'est assez simple. Un procès en contrefaçon, ça va te coûter quelques millions de dollars, mais derrière, t'accèdes à un marché de plusieurs centaines de millions de dollars. Et un procès, c'est, tu vois, c'est une étape dans ce procès en question. C'est une étape dans le développement produit. Le développement du produit, ça coûte quelques millions de dollars. La commercialisation, ça coûte quelques millions de dollars.
Enfin, le procès coûtera, pareil, quelques millions de dollars.
Enfin, donc, c'est, tu vois, c'est pas...
Il faut l'inclure dans le business plan.
Bah, tu l'inclus dans le business plan. Ouais, il est dans le business plan, il a sa ligne. Tu vois, il n'y a pas marqué procès en première façon, mais il y a marqué propriété intellectuelle. Boum, tu as la ligne en face.
États-Unis, faut bien le dire, ce sont des malades dans les procès. Donc si tu fais
Et c'est pour une boîte américaine, enfin les boîtes américaines du secteur,
elles ont des millions,
à mon stade, elles auraient déjà en interne un legal counsel,
un avocat en interne,
un general counsel, un avocat en interne, un directeur d'IP, donc enfin dans une logique américaine, ça ferait peur à personne. Par contre, en France, je dirais que 95% des portes se sont fermées très rapidement. Et c'est d'ailleurs pour ça que du coup, je suis allé faire cette série A avec un lead investisseur américain.
D'accord. C'est parti aux États-Unis ou t'as fait le roadshow aux États-Unis
On a sollicité des fonds américains et donc un investisseur américain a accepté de prendre le lead et embarqué derrière des fonds français qui étaient prêts à suivre, mais aucun fonds français était prêt à prendre le lead avec un sujet IP comme ça. Et c'est un truc dingue. Ça, c'est un truc qui m'énerve en fait au fond, c'est quand même que tant que nous en Europe, c'est pas juste français, c'est européen,
bien sûr.
Tant qu'on n'intégrera pas les codes du business américain, notamment sur ces sujets legal, on va toujours se faire bouffer. Parce qu'en fait, en face, ils utilisent ça, c'est une arme comme une autre de dissuasion de la concurrence, tu vois. Donc, si t'es pas prêt à
te défendre et
défendre tes innovations et à pousser tes innovations sur le marché selon leur code, bah, eux, ils vont continuer à les utiliser et ils vont pas se priver d'aller dézinguer toutes les startups françaises qui pourraient aller leur tailler les coupières.
Il y avait exactement ça avec OpenIA en ce moment, par exemple. Apparemment, ils font énormément de lobbying pour mettre le plus de régulation possible sur les modèles pour que ce soit très dur. Ouais, des acteurs compétiteurs émergent d'Europe et là, il y a l'AI Act qui est sorti ce matin et qui est un peu prouvé que d'une certaine manière, je crois qu'ils ont un peu réussi.
Non, mais il y a plein.
Donc... faire peur à tout le monde pour qu'il y ait le maximum de lois et donc pour que les trucs en Europe sortent pas, quoi.
Donc, bref, ça, c'est un sujet qui m'agace. Mais moi, j'ai pris un peu mon bâton de pèlerin, j'ai essayé d'aller chercher des fonds comme ça. Et donc, j'ai réussi à créer un syndicat autour de cette levée de fonds. C'était une levée de fonds 16,5 millions. Mais ce qu'il a fallu gérer en parallèle, c'est que du coup, le business angel du départ, lui, a bloqué le truc.
Bloquer
le deal,
la levée,
et lui voulait sortir. Donc il a fallu négocier la sortie du BA, donc lui filer une partie de la levée à être utilisée pour
un cash out, d'accord.
Faire un cash out, quoi. Et donc ça, c'est dans toutes les. Et je suis pas le seul, dans le domaine, j'ai d'autres boîtes qui sont un peu passées par là, quoi. C'est gérer les BA du départ. Le BA du départ était très utile au départ, mais au final, il nous a quand même coûté cher. Avec le recul, si on avait pu s'en passer, ça aurait été mieux quand même.
C'est difficile. Mais bon, il vous a été utile au début, c'était ça qu'il fallait au début.
Ouais, mais encore une fois, pourquoi est-ce qu'on est parti avec lui au début? C'est parce qu'aussi, l'écosystème des fonds
VC
en seed était pas prêt à nous soutenir sur un projet.
C'était quand? Parce que j'ai l'impression qu'en mode deep tech, ça a beaucoup, beaucoup changé aujourd'hui avec beaucoup, beaucoup de communication là-dessus, plein de fonds spécialisés.
Peut-être un peu plus. Vois,
beaucoup de com, en tout cas.
Je pense qu'il y a beaucoup de com, mais après, derrière, je suis pas sûr que ça se traduise encore réellement beaucoup dans les faits.
Ok.
Ouais.
Donc là, vous galérez pas mal, mais vous réussissez à faire une levée, donc tu as dit de 16 millions.
2018. Et on est passé à une semaine du dépôt de bilan à ce moment-là. On avait, et c'était le levier s'approcher très 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 dangereusement de la falaise, c'était le seul moyen de forcer le BA à lui dire écoute, arrête de faire le con, continues à faire le con, dans deux jours je suis au tribunal de commerce, je déclare la mise en redressement judiciaire et puis tu perds le contrôle, donc maintenant il faut que tu arrêtes de faire le con, on prend une décision raisonnable où on a tous tout perdu. C'est
une négociation difficile à avoir.
mais je pense que c'est le dernier levier que tu as entre tes mains, mais c'est sûr qu'en tant que dirigeant, faut jamais oublier que tu as toujours ce levier là, quoi. C'est-à-dire que tes actionnaires sont juste actionnaires, toi tu es mandataire social, tu as des responsabilités auprès du tribunal de commerce, et s'il faut que tu ailles les prendre, il faut aller les prendre, quoi.
Donc vous réussissez à nettoyer la cap table et à avancer.
Ouais.
Là, qu'est-ce qui se passe dans ces années-là? Donc ça, c'est de...
Entre 2017-2018. Et 2017, on a eu cette première année de commercialisation. Et donc, ce qui est assez fou, c'est que j'avais toutes ces galères à gérer en tant que CEO. Et c'était quand même une année très, très compliquée à gérer. On était au bord de la faillite. Il fallait négocier avec le BA, les investisseurs, ouais, etc. Mais en même temps, on a quand même réussi à faire trois fois le chiffre d'affaires dans l'année d'après. Et donc, je pense que c'est ça qui nous a sauvés. C'est-à-dire qu'on a quand même réussi à montrer aux investisseurs, leur dire, voilà, il y a une traction, on est sur une belle trajectoire. Hein. Si on n'avait pas eu ça, je pense qu'on aurait mis la clé sous la porte, les mecs n'auraient pas suivi. Donc, on a cette traction commerciale. Et on la doit aussi en partie avec une stratégie commercialisation qui est un peu originale. C'est que j'ai commencé à vendre d'abord en Europe, évidemment en France, pour mes clients en France, mais je suis tout de suite aussi allé vers la Chine. On a commercialisé plus fort en Chine au départ qu'aux US parce qu'il y avait un marché émergent là-bas, il y avait beaucoup d'argent.
C'était quoi comment vous l'avez identifié ce marché? C'était quoi exactement? Comment vous êtes allé?
Je sais plus exactement. Enfin, j'avais rencontré des distributeurs en Chine. J'ai commencé à regarder aussi un petit peu ce qui se passait là-bas. J'avais discuté aussi avec un ami entrepreneur, Sacha Loiseau, qui est chez Monakea dans le domaine de la medtech, qui aussi lui était passé par la Chine. Et donc j'avais eu un peu des échos du fait que c'était un vrai marché émergent, quoi. C'était un peu l'équivalent de la ruée vers l'or, mais pas à l'ouest, mais à l'est, quoi. T'avais tout d'un coup
sur les machines.
Là-dessus, et même de manière générale dans la medtech, en fait, c'était une économie qui était en train d'émerger et qui avait une croissance de folie, une population classe moyenne qui était en expansion considérable et des besoins, enfin des moyens de santé qui étaient dérisoires. Et donc le gouvernement, il mettait des milliards et continuait
pour moderniser d'un coup.
La techno. Donc là, il y avait un truc à faire.
Et c'était quoi vos premiers clients? Enfin, c'était quoi le cas d'usage là-bas?
C'était pareil, c'était plutôt de la recherche.
Plutôt de la recherche,
d'accord. Ouais. Mais on est passé par un distributeur et encore aujourd'hui, notre plus grosse base installée d'instruments, elle est en Chine. Donc, on a continué de garder très, très fort, marché chinois.
Là, vous arrivez jusqu'à... Du coup, tout se passe bien à partir de ce moment-là?
Là, le développement de la boîte, commercialisation, tout ça se passe bien, 2018-2019, sauf que du coup, 2019, du coup, on se lance dans l'aventure américaine, on se dit on va monter une filiale aux US.
Qui est le marché principal quand même pour ce genre de technologie?
Qui reste le marché principal.
Qui reste le marché principal, d'accord.
Pas le marché le plus simple, parce que c'est aussi le plus compétitif.
Oui.
Donc, on se lance dans le marché.
Vous n'étiez pas réglementé à ce stade, il n'y a pas besoin. Non,
parce que c'est toujours des usages de recherche.
Toujours des usages de recherche, donc pas de notion de réglementation.
Ouais. Et donc, on ouvre la filiale aux États-Unis, on recrute une équipe. Ça, c'est en 2019. Et ça n'a pas loupé. Du coup, le concurrent américain saisit l'opportunité pour ouvrir le procès en contrefaçon. Donc là, il faut gérer ce petit sujet-là qui se matérialise. Et donc là, ça impose aussi de faire une série B parce qu'on sait qu'avec la série A de 16,5 millions, on ne va pas pouvoir prendre 5 millions des 16,5 millions et les mettre sur le procès. Donc,
Vous l'avez mis sur le BP, mais bon, là, ça ne fiait plus. Ouais.
Il était forcément sur le BP, mais les 16 millions ne suffisaient pas non plus à tout financer. Donc,
un peu de marge aussi.
Donc on avait quand même une belle croissance commerciale. On avait notamment des beaux développements en Chine. Donc là, on fait une série B. On fait une série B avec un lead investisseur chinois.
Chinois? Ah ouais, d'accord.
Parce que eux, ça les intéressait aussi de financer une boîte européenne qui développait le marché en Chine. Et donc ça, c'est fin 2019 que ça se fait. Donc là, pour l'instant, ça se passe bien. Sauf qu'on sait qu'il y a ce procès à gérer et le procès commence.
Comment ça se gère? C'est vous préparez vos pièces en amont de pourquoi vous pensez avoir raison, lui il prépare pourquoi.
Ouais, c'est ça, enfin, c'est marrant, enfin, les procès.
Il n'a même pas accès à la techno, enfin, comment il peut. C'est quoi? Comment il peut vérifier comment ça marche?
Si, enfin, lui après, en fait, chacun lawyer up, donc chacun prend son équipe d'avocats. Et puis nous on est dans l'équipe de défense, donc les avocats de la partie adverse. Font ce qu'ils appellent la discovery, donc tu dois leur filer tous tes emails, tous les documents qu'ils demandent, tu dois les filer, les plans, etc. Mais tu les files aux avocats, hein, et les avocats en face n'ont pas le droit de le montrer à la boîte en face. Hein,
mais les avocats vos avocats de gars qui vous attaquent avaient accès à tous vos trucs. Ok, d'accord.
Pas très familier. Tu rentres dans un particule de justice, donc. tu as ton équipe d'avocats qui...
Elle aussi fait
des demandes de discovery pour essayer d'avoir un maximum d'informations sur la partie adverse. Ils peuvent pas m'en dire énormément à moi, mais bon, eux s'occupent de préparer le procès. Donc là, tu t'occupes, enfin, t'as ton lead, ton avocat principal, il te coûte $2000 de l'heure.
D'accord.
Tu commences à claquer de plus en plus d'argent. Ça prend 2 ans, un procès comme ça. Un procès en contrefaçon, c'est à peu près un process de 2 ans. Et ouais, minimum 5-7 millions de dollars, quoi. Donc le procès, après, s'est tenu en l'été 2021.
Ok. Et donc pendant tout ce temps-là, t'as une espèce de charge mentale énorme du procès ou tu réussis à t'en détacher un peu? Comment ça se répercute dans...
Vous étiez prévenus en avant? Ouais, on était prévenus, on s'y attendait. J'avais recruté quelqu'un qui avait déjà fait ça. J'avais un directeur de propriété intellectuelle qui connaissait un peu le sujet, qui prenait quand même pas mal de la charge administrative du truc. Mais ça te bouffe un temps fou. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les boîtes, notamment les grands groupes américains, utilisent ça pour attaquer des nouveaux entrants, c'est que...
Au-delà de l'argent,
ça te bouffe
un temps
énorme.
L'énergie,
et du coup, tu passes sur un mode mentalité plutôt défensive qu'offensive, de fait. Parce que t'es sur la défense, donc t'es obligé de... Enfin, tout d'un coup, tu dois faire gaffe à ce que tu dis, tu dois faire gaffe à ce que tu écris.
Dans le développement produit, tout ce que tu fais dans les nouvelles annonces et tout, ouais, ça te freine mentalement.
Tu veux éviter de faire le faux pas. Donc, heureusement qu'on était préparé, parce que si t'es pas préparé à ça, si tu l'as pas un tout petit peu anticipé, je pense que c'est encore pire. Mais c'est sûr que ça te coûte. Ça te coûte de l'argent et puis ça te coûte dans ta capacité à développer ta boîte. Mais si tu veux aller sur le marché américain et que tu es sur un secteur d'application comme le nôtre où c'est monnaie courante qu'il y a des procès, il ne faut pas être naïf. Il faut être prêt à y aller, quoi.
Donc là, le procès s'ouvre ?
Non, là, tu prépares le procès. Ça, c'est donc le moment où ils nous ont attaqué, c'était en 2019.
Okay.
Et après, tu prépares ton procès. Ça prend à peu près 2 ans pour faire tout le process.
Ok, donc là, de 2019 à 2021, il y a d'autres événements notables
Ouais, donc après, il y a eu Covid.
Ah oui,
ça, tout le monde s'est pris ça en 2020.
C'est vrai.
Ce qui n'était pas anodin.
Attends, vous avez quand même réussi à refaire une autre levée, du coup.
Ouais, la série B, 20 millions, la série B, et ça s'est fait en décembre 2019, début 2020, donc juste avant Covid.
Ah oui, putain.
Heureusement.
Ah ouais, parce que c'est difficile de le... Ouais.
Sinon, ça aurait été un peu galère.
Mais tout le monde avait besoin de test PCR à ce moment-là, donc peut-être ça...
Bah, pas encore, parce qu'en fait, c'était avant Covid, donc tu vois, c'est...
Ah oui, c'est vrai que ça arrivait juste...
Ça n'est pas... Et en fait, nous, ça nous a pas tant servi.
Ah ouais,
après, il
y a
eu Covid, et ça nous a pas tant servi, parce que justement, les tests de PCR classiques, il suffisait à faire du Covid. Donc nous, on était sur des technos qui faisaient très très bien le Covid, très 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 bien, mais bon, ça coûtait aussi 10 fois plus cher, et donc forcément c'était difficile de vendre un test 10 fois plus cher que les tests classiques. Donc ça nous a pas hyper bien servi, au contraire, c'était quand même assez pénible à traverser, comme pour plein de boîtes qui n'étaient pas dans le domaine du Covid. Et c'est là aussi, du coup, où moi personnellement, il y a eu un événement assez marquant, c'est-à-dire que je me retrouve, donc c'est pendant la phase du Covid. J'étais CEO, mais en fait, j'avais aussi, c'était compliqué, j'avais dans ma famille, il y avait des trucs à gérer un peu galère. Et donc, j'ai senti en l'année 2020 que, en fait, j'étais devenu un élément limitant au développement de la boîte.
Ah oui, c'est dur comme réalisation.
Ouais, mais enfin, je pense que tout dirigeant fondateur, à un moment, je pense que c'est rare que si tu vas voir ta boîte pendant 10 ans,
ouais,
t'as pas un moment comme ça où t'es un peu plus dans le dur, où ce qu'il faut faire pour la boîte, c'est pas forcément là où t'es fort. Et donc c'était une année compliquée. Et donc c'est pour ça qu'en fait, en 2020, je me suis dit, je vais passer la main en tant que CEO.
C'était quoi les points exactement? Tu t'es dit là, ça, je suis pas la meilleure personne pour le faire, ça, ça marcherait mieux.
Ouais, en fait, en tant que dirigeant CEO d'une boîte commerciale comme ça, du coup, la plupart de mon temps, il est utilisé à gérer des problèmes administratifs, financiers, commerciaux. Et en fait, la techno, la science, les trucs qui me motivent, commencent à représenter une portion un peu infime de mon temps. Et je pense que je parle pour moi, mais c'est peut-être, ça s'applique peut-être à plus de personnes, mais quand mentalement et physiquement je suis en forme et je suis bien, j'arrive à me plonger et j'arrive à abattre plein de sujets qui me font
chier.
Ouais. Ouais.
Donc, quand ça va bien, enfin, quand mentalement t'es bien, t'arrives à faire pas mal de trucs qui te font chier. Quand t'es plus dans le dur, bah là, tout de suite, ça devient pénible, quoi. Et le matin, tu démarres ta journée, t'es là, putain, fais chier, il va encore falloir que je traite de ces sujets RH à la con. je dois faire mon reporting et ouais. Encore me faire chier sur ces trucs.
Si t'étais bien, tout ça serait passé comme une lettre.
Ouais,
à la poste,
c'est bien,
mais
tu
là,
le fais, et puis après, tu passes.
Là, il n'y avait pas assez de bien dans les.
Ouais, ouais, à un moment, tu te dis, putain, est-ce que je vais continuer à faire ça pendant encore des années, là? Ou est-ce que j'ai pas mieux à essayer de trouver quelqu'un qui aime bien faire ces trucs qui moi me font chier, hein, parce qu'en fait il y a toujours des gens qui sont pour qui enfin sur les sujets financiers et tout ça, il y a des CFO qui font leur vie et donc c'est un peu ce constat là et là je me dis je vais recruter un CEO et puis moi je vais me remettre sur les choses que je sais bien faire et que je sais même bien faire quand je suis pas au top physiquement ou mentalement, la science, développer le produit et tout, hein, donc prendre un poste de CTO. Et donc j'ai mis à peu près 6 mois à chercher un CEO.
Ok. En accord avec les autres cofondateurs, enfin tu leur en avais parlé.
Ouais, je leur en ai parlé. C'est surtout fait avec le board, hein, parce que donc il fallait que
Bien sûr, le board, ouais.
Le board soit d'accord avec ça. Bon, ça c'est une décision. J'en ai discuté avec le chairman du board. Qui eux, pour eux, ils ont accueilli bien la nouvelle, parce qu'en toute façon ils voyaient que j'étais. Enfin, j'étais pas aussi performant que j'avais pu l'être avant.
D'accord, ouais.
Donc, à un moment, tu te dis, là, on est dans le dur, faut faire quelque chose, quoi. Et donc, en janvier 2021, j'ai accueilli un nouveau CEO que j'ai recruté, du coup. Et je suis passé CTO. Et je pense qu'à l'époque, je regrette absolument pas cette décision. Parce que j'en avais besoin et je pense que la boîte en avait besoin, en fait, à ce moment-là. Et c'était un CEO qui était basé du coup aux États-Unis et qui avait du coup pour mission de pousser nos produits et nos technos aussi commercialement aux US et dans le monde entier. Et il avait un focus là-dessus, moi j'avais un focus sur du coup ça m'a permis moi de me dégager du temps et c'était un truc que je savais qu'il fallait qu'on fasse. J'avais dit au début, premier produit on l'avait un peu bootstrappé, mais du coup on avait quand même embarqué avec nous un certain nombre de faiblesses qui étaient héritées des blocs fonctionnels qu'on avait pris sur l'étagère. Et donc là, j'avais dit au board, moi, ce que je vais faire, c'est je vais repartir from scratch et je vais enfin pouvoir repackager tous nos 7 ans d'expérience, de savoir-faire dans un nouveau produit qui sera vraiment adapté sur les applications de l'analyse génétique de précision en routine qui commence à émerger. C'est le début d'un projet qui a duré 2 ans et demi et on a sorti le produit là en novembre.
D'accord. C'est là les annonces que j'ai vues sur LinkedIn et tout.
Yes,
ça.
C'est ça, c'est ça.
D'accord. Donc c'était vraiment de repartir vraiment plus de faire le produit style A qui sur tous les aspects correspond à ces nouveaux usages et à la tech qui est faite pour l'usage et pas
dans
l'autre sens.
Ouais. Ouais, et reprendre la maîtrise totale et là on investit dans l'industrialisation et là du coup c'était un projet. Enfin, je me suis mis en retrait, mais en même temps, du coup, j'ai pris en lead un projet qui représentait 10 à 15 millions d'investissements. Je ne sais pas combien on a dû mettre, entre 10 et 15, on a dû mettre dans le projet au final. Et du coup, j'étais un peu le chef de ce projet-là, mais je me suis détaché du reste, de l'admin, du financier.
Et à ce moment-là, vous n'avez pas relevé pour faire ça. Donc ça marchait avec les 20 millions de
20 millions, mais après, ça a été annoncé aussi. On avait eu un prêt de la BEI, donc on a fait de la levée de dette. Okay. Pour faire des financements complémentaires sur la base de la série B. Ouais.
Et commercialement, là, ça se passe bien. Le nouveau CEO arrive. Vous êtes à combien de CA à ce stade-là?
En fait, on a un peu plafonné aux alentours des 5. En fait, pendant Covid, là, les années 2020-2021, ça a été assez fluctuant. Parce qu'en fait, nos clients, là-bas, c'était le labo de recherche. Quand il y avait le Covid, ils étaient fermés.
Ah oui.
Donc, tout d'un coup, ton marché n'existe plus, quoi. Et donc, tu as encore quelques niches qui continuent à tourner, mais la plupart de tes clients n'existent plus. Donc on a d'abord eu une décroissance du chiffre d'affaires en 2020, ça a été galère pour nous. 2021, ça repart. Mais ça repart pas aussi fort que ce qu'on espérait. Donc ça reste commercialement un peu dur. Je pense qu'on a pris du retard sur notre produit aussi. C'est là où je pense qu'on paye, par exemple, l'histoire du procès en contrefaçon. Tu vois,
ouais,
c'est,
ouais.
Ce projet de repackaging de notre savoir-faire, j'aurais sans doute pu l'entreprendre un an, 18 mois plus tôt. Mm-hmm. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais ailleurs. Et je pense qu'on paye tout ça et du coup on est dans une phase un peu de croissance, mais de croissance trop molle. Enfin, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça.
Ouais, c'est ça. Et toujours sur des usages plutôt recherche, en fait. Vous vendez quand même à des gens qui font de la recherche aussi. Qui
est pas recherche, mais de plus en plus dans des cas de diagnostic médical, mais en milieu hospitalier. Donc, on est toujours pas concerné par la réglementation dure du domaine du diagnostic, mais on vend à des hôpitaux qui ont le droit d'utiliser des technos innovantes pour faire rendre des résultats patients. Et on voit clairement, en 2021-2022, on voit émerger ces usages de routine.
De routine, donc là c'est jackpot pour vous parce que ça c'est le truc.
Bah, bientôt, on les voilà. voit émerger.
On les voit
là,
émerger.
Là tu te dis, ok, il y a une maturité techno, il y a une maturité applicatif qui est en train finalement de se cristalliser.
Et puis il faut que les médecins, enfin tout l'écosystème, ils connaissent ce genre de techno-là, qu'ils s'approprient.
Ouais, mais il y a tout le, il y a tous les, tout les briques pour assembler le puzzle qu'il nous faut. C'est-à-dire
en Chine, aux États-Unis et en.
Chine, aux États-Unis, en Europe, ouais.
Ok.
Et donc, c'est ça qui fait le business case de bah, on va remettre 10-15 millions dans le repackaging du produit pour adresser ces applications de routine-là.
Et les meilleurs, ce truc-là. Ouais.
Et c'est ça qui nous a permis de continuer de développer. Et c'est ça qui m'a permis de refaire une série C cet été pour continuer à développer la boîte. Et malgré une croissance, mais une croissance qui est plus faible que ce qu'on aurait pu espérer, on continue d'être là. Et là, on voit qu'il y a une possibilité de continuer à se développer plus rapidement que ce qu'on a fait au cours des quelques dernières années.
Donc ouais, le CEO, il est arrivé donc en...
Janvier 2021.
Et là, tu t'es présenté en tant que CEO encore. Donc,
ouais. Ouais, ouais, donc là, je suis CEO. Qu'est-ce qui s'est passé?
Est-ce qu'il est arrivé en 2021 et tu dis là, tu t'es lancé dans un méga projet pharaonique de tout refaire qui est sorti là, machin.
Ouais.
Et donc là, t'es focus sur le repackaging du produit.
Ouais.
J'entends que ça s'est plutôt bien passé.
C'est bien passé. Puisque... Je menais un projet entrepreneurial, dont on parle si on a le temps ou pas.
Ah, d'accord. Ok.
Donc, j'ai fait pas mal de trucs. Mais effectivement, du coup, mais après, donc là, ça s'est passé cette année. C'est-à-dire que, en fait, je pense que là, on a raté une fenêtre de tir aussi sur la levée de fonds en biotech. Je pense qu'avec le recul, on a fait une levée de dette en fin 2021. Je pense qu'on aurait dû faire une levée en capital à ce moment-là, parce que le marché était assez chaud. Et après, en fait, on s'est dit non, on va attendre d'avoir repris de la croissance. Qu'on était sorti d'une année dure, 2020, on avait fait moins 30% ouais, de CA, donc ouais. Tu vois, on était sur un business plan qui n'était pas un historique, qui n'était pas top. Donc on se dit, on va repartir de l'avant et puis après, on va relever. Donc on se remet à lever, on reprend notre bâton de pèlerin en mars 2022. Et quatre semaines plus tard, guerre en Ukraine, et là, les marchés s'effondrent, tout se verrouille. Et donc ça a été très dur aussi là de relever des fonds et donc le CEO qui était en charge de ce process de levée de fonds va y passer énormément de temps pour finalement et donc avec une focalisation très américaine parce qu'il était basé aux US et on pensait que finalement la croissance allait venir des US. Mais au final, après 18 mois, il s'est retrouvé en échec sur cette levée US. Et on a finalement réussi, par contre, du coup, on avait toujours des développements en Chine qui étaient intéressants. La Chine sort du Covid, donc ça repart là-bas. Et donc, au final, on fait une série C, mais avec un lead investisseur chinois. Et du coup, là, lui se retrouve dans une situation un peu inconfortable avec le barycentre de la boîte qui est toujours en Europe, mais un regard qui se tourne vers l'Est et lui qui est basé aux États-Unis. Donc, un peu compliqué d'un point de vue positionnement. Et donc, c'est là où il a décidé de partir et de dire je ne suis plus la bonne personne, je ne suis plus au bon endroit pour faire le taf. Et donc, j'ai repris les rênes pour la suite de l'aventure. Quoi.
Et donc, donc, là, tu te remets dans le poste de CEO.
Ouais.
Et donc, heureux d'avoir pu recharger les batteries sur un parti
technologique. Ouais, ouais, non, je pense que les deux années passées ont été utiles pour moi, ont été utiles pour la boîte. C'était pas forcément le plan, mais maintenant je m'en sens capable. Je pense aussi, du coup, en deux ans, j'ai pu un peu apprendre, mûrir et avoir ma croissance personnelle sur ces domaines-là.
D'accord.
Ce qui est un peu le truc difficile quand t'es fondateur. C'est-à-dire que moi, tu vois, c'est mon premier boulot. Et au départ, je suis chercheur.
tout apprendre sur le tas.
Ouais, donc avoir son accroissement de compétences personnelles qui soit aussi rapide que le développement de ta boîte, c'est pas toujours possible, quoi. Ouais, donc là, finalement, j'ai pu prendre un peu de recul, un peu de temps pour moi, et puis là, ça me permet de revenir dans de meilleures conditions.
Intérioriser les choses comme un comme Obi-Wan Kenobi qui part dans le
ouais,
désert.
Ouais, j'ai aussi vu un autre CEO, tu vois, ça m'a permis de voir un autre CEO agir dans ma propre boîte, mais du coup, voir d'autres manières de faire, d'autres méthodes, d'autres outils, de m'en inspirer, de voir ce qui marche, ce qui marche pas. Donc, c'est utile, quoi.
Ouais, c'est utile, ouais. Et t'avais des systèmes de mentorat ou autre chose comme ça? T'étais toujours entouré de mentors? Enfin, c'est pas
si,
mal,
ouais,
c'est
un peu mentor, je suis fait du coaching. Ça, je pense que c'est un truc que moi, je conseille vraiment. Hein. Je pense qu'avoir c'est surtout quand j'étais CEO et quand j'ai passé la main, avoir un regard extérieur sur ce process de réflexion, à la fois personnel, mais aussi de choix du CEO, c'est utile. Quand t'es tout seul, généralement, le CEO est assez seul. C'est pas forcément facile d'avoir un regard extérieur, d'avoir un.
C'est vrai qu'il y a souvent un accompagnement dans les incubateurs où là t'es mis en relation avec des mentors, des machins, des trucs, mais il faut essayer de les garder au maximum. En fait, il faut regarder toute la.
Mais enfin, payer un coach, tous les athlètes de haut niveau, ils ont un coach pour s'améliorer dans leur performance sportive et mentale aussi. Et pourquoi est-ce que les dirigeants, nous on est des grands athlètes du cerveau, quoi. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas
vrai,
des...
C'est vrai, il y en a plein. D'ailleurs, on fait du coaching à Start the Fuck Up de dirigeants, donc n'hésitez pas à nous contacter. voilà. Trop cool. Et donc là, c'est quoi le futur pour Stila? Et tu as mentionné aussi un autre projet entrepreneurial que tu avais.
Ouais. Deux questions dans une. Projet entrepreneurial. Ouais, en fait, sur ce nouveau système qu'on a développé, donc on l'a développé from scratch, c'est-à-dire qu'on est allé reconcevoir le produit de la plus petite carte électronique et moindres composants. Mais pour mener un projet comme ça, qui est quand même assez complexe, qui demande quelques dizaines d'ingénieurs qui bossent tout le temps sur un projet comme ça, c'est assez dur de faire ça en interne. Parce que du coup, tu devrais embaucher, si tu le fais en interne, t'embauches 40 ingénieurs pour 2 ans, puis après, t'en fais quoi des 40 ingénieurs? Et puis, t'as pas besoin des mêmes 40 ingénieurs pendant toute la durée du projet. Donc, en fait, la meilleure manière de faire ça, c'est d'externaliser auprès d'un ce qu'on appelle un contract developer and manufacturer, CDMO en anglais, ou un bureau d'études en français, ou je sais pas comment on appelle ça en français. Et en fait, donc ça, c'était 2021. Je me lance là-dedans et je commence à me dire avec qui est-ce que je vais bosser. Et en France, il y a personne. D'accord. Ça n'existe pas. En tout cas, ça existe, mais parfois sur des petites échelles, on est vraiment nul dans le domaine de l'instrumentation pour les biotech, biotech et medtech, parce que ça demande des compétences, t'as un aspect réglementaire, enfin il y a un savoir-faire autour de ça, et une diversité de métiers qui est un peu particulière, de l'optique, de la thermique, de la chimie, de la biochimie, du logiciel, enfin il faut pas mal de métiers, donc en France clairement je trouve pas, en tout cas il y a pas d'acteur qui est positionné là-dessus clairement. T'as que des acteurs américains, anglais, des allemands, mais les français on est nuls. Et de fait, de toute façon, tu vas dans un laboratoire de biotech ou dans un labo de recherche en biologie, quelle que soit la biologie, en fait tout le matos est étranger, hein. Donc on est assez nuls là-dedans, quoi. Et donc là, ça me frustre un peu, et en même temps, par chance, j'entends parler du fait que il y a une unité, il y a une usine, un bureau d'études conception et une usine de mon concurrent d'ailleurs qui m'attaquait en contrefaçon à ce moment-là, qui était basée à Rouen, et ils avaient décidé de fermer cette unité pour délocaliser à Singapour. Et donc là, sur Rouen, en fait, je découvre qu'il y a une équipe de 50 personnes qui savent parfaitement faire ce que j'ai besoin de faire.
Ils ont travaillé pour ton concurrent.
Mais ils n'ont pas sur le produit en question.
Ah d'accord.
Mais pour mon concurrent, mais pour des produits qui sont similaires, qui intègrent un peu les mêmes métiers, les mêmes compétences et tout. Et donc je les rencontre, je creuse un peu. Qui vont être virés.
Ah ouais.
Qui vont se retrouver. Et donc, et c'était vraiment, les mecs, ils étaient super forts. Et je pense toujours que c'est vraiment des types qui sont super forts. Donc ça, je m'en rends compte en les rencontrant, en découvrant un peu les produits qu'ils ont faits. Et à la base, c'était aussi un petit bureau d'études qui s'est monté il y a 40 ans, qui s'est spécialisé là-dedans, qui a fini par être racheté par ce concurrent. Et tout ça pour finir en plan de licenciement éco pour délocalisation. Tu vois, c'est quand même hyper triste. Et je pense que c'était une des rares dernières équipes de France qui avait ce savoir-faire. Et donc là, je me dis, il y a peut-être un truc à faire. Je vais pas le faire seul parce que moi, je peux pas reprendre tous les gens. Mais en fait, je me suis associé avec un bureau d'études lyonnais qui était spécialisé dans la machine spéciale pour la biotech pharma. Donc, eux, ce qu'ils font à la base, c'est qu'ils construisent des unités de production de médicaments, de tests diagnostiques, trucs comme ça. Donc, ils vont faire des machines à 1 million d'euros, mais ils vont faire un exemplaire. Mais c'est leur métier. Et ils font ça comme ça. Et donc, je m'associe avec eux, je leur dis, écoutez, vous voudriez pas qu'on monte ensemble le premier CDMO français spécialisé dans l'instrumentation pour les biotech et le diagnostic médical? Et les mecs disent banco. Et donc, c'est comme ça qu'on a en fait repris cette entité rouennaise. Et qu'on a créé la boîte s'appelle MG Ahmed Tech. Et donc, moi, j'aurais confié le produit et les types ont été extraordinaires. Ils ont fait un boulot remarquable. Le produit, c'est un bijou. Ça, c'est, on a livré le produit dans les temps, au spec et dans le budget. Ça n'arrive jamais.
Ça n'arrive jamais. Ça a l'air normal, hein, dit comme ça, mais c'est comme en développement informatique, voire pire. Donc.
Voire pire, ouais.
Ça n'arrive jamais.
Donc, ça n'arrive jamais. Et donc, ça, c'est une autre de mes fiertés personnelles. Je suis très content que ça existe. Et maintenant, il existe une entité en France qui est capable de mener ce genre de projet. Donc j'espère qu'on va faire émerger un peu une filière instrumentation pour la biotech, pour la génétique autour de...
Ouais, il y a pas mal de boîtes là-dedans au niveau recherche du coup, au niveau start-up un petit peu.
Ouais, il y a des start-up qui émergent. Enfin, je veux dire, on a un écosystème de recherche académique qui est super fort là-dedans. On a des gens hyper talentueux, mais aujourd'hui, tu peux monter la boîte, tu peux inventer le produit. Et en l'absence d'un CDMO, tu vas finir par filer la moitié de ton business en Allemagne, en Amérique. C'est un peu con, quoi.
Trop bien. Trop bien. Et donc là, la big news pour Stila, c'est du coup que vous avez sorti votre dernier produit.
On a fêté nos 10 ans.
Vous avez fêté vos 10 ans.
On a fêté nos 10 ans. On a sorti notre nouveau produit. On a fait une nouvelle levée de fonds. Donc, c'est un peu un nouveau départ pour nous parce que là, on est vraiment dans une logique qui va être très différente. Logique vraiment axée sur la commercialisation, pousser la boîte dans une logique d'atteinte de la rentabilité, essayer de pérenniser ces 10 années d'investissement. Il y a un marché qui est là, on a un beau produit, on a des gens qui sont ultra ravis de l'utiliser, on voit les applications DIAC qui émergent, notamment dans le cancer, mais aussi dans contrôle qualité, dans la production pharmaceutique, enfin plein de trucs différents. Donc on a un bel avenir, on a toutes les pièces du puzzle qui sont là. Il nous appartient qu'à nous de les assembler et de faire de tout ça un succès, quoi.
Trop bien. Et le procès, on a pas parlé du procès, et vous l'avez gagné? Est plus là, il est toujours là.
Ni répondre oui, ni répondre non.
D'accord. Ok.
Parce qu'on n'est pas allé au bout, en fait.
D'accord.
Comme très souvent dans ces histoires de propriété intellectuelle, ça se finit par un accord à l'amiable.
Ouais.
Mais c'est la même logique que s'approcher de la falaise. Parce qu'en fait, je vais pas tout raconter sur un procès, mais il y a un truc qui est quand même génial dans ces procès en contrefaçon aux États-Unis, c'est qu'en fait. Donc, tu t'attaques ton concurrent en contrefaçon. À la fin, les juges, c'est des juges civils. Enfin, c'est 12. Donc là, ça s'est fait dans la juridiction de Boston.
Donc
tu vas prendre 12 types de Boston qui sont choisis au hasard. Hein. Donc, tu prends donc 12 Pékin moyens. Tu les assois sur un banc.
Ils se prennent des informations hyper techno sur les trucs.
Et donc, franchement, pour vraiment arriver à juger de manière objective le sujet, il faudrait peut-être avoir au moins 2 ou 3 thèses à son actif. Et là, tu prends 12 Pékin moyens et tu leur demandes de rendre un jugement, tu vois. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, en fait...
On dira rien sur les Américains, mais en plus, c'est des Américains.
Hein. Et donc, en fait, c'est de la roulette russe.
Oh là là.
Mais pour celui qui attaque comme pour celui qui défend. Et personne n'aime trop jouer à la roulette russe et t'as le droit à un coup parce que si tu perds tu perds quoi. Si tu gagnes tu gagnes et si tu perds tu perds et donc en fait ce qui est génial là-dedans c'est qu'en fait quand tu prépares ton procès tu peux avoir les meilleurs arguments scientifiques du monde, à la fin la seule chose qui compte c'est d'avoir une histoire assez jolie à raconter pour convaincre le Pékin moyen tu dis la vérité, mais en fait tu peux lui dire à partir du moment où t'es convaincant ça suffit quoi. Pas la vérité qui compte, c'est la manière dont tu vas présenter ton alternative truth, tu vois, ta vérité alternative à la Donald Trump pour gagner ton procès. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, c'est pour ça que, en fait, tu fais tout ce...
Les avocats sont des coachs en storytelling.
Mais c'est pour ça qu'ils sont payés super cher. C'est parce qu'en fait, tu les payes pas... Enfin, ils ont pas fait une thèse en microfluidique. Payes sur leur capacité à raconter une belle histoire.
Ah là là.
Et donc, c'est pour ça qu'en fait, dans la plupart de ces procès, ils finissent en accord à l'amiable, mais tu vas le plus loin jusqu'à ce que, en fait, les deux parties se disent, ouais, c'est quand même plus utile de trouver un accord, quoi. Mais il faut avoir les deux pieds au bord du vide avant de se décider. C'est la nature humaine qui est comme ça, quoi.
Ok, donc réglé à l'amiable et voilà, donc c'est plus un sujet pour
vous. On a enterré l'âge de guerre. Dans des conditions qui resteront confidentielles.
C'est ça.
Mais l'âge de guerre est enterré. Voilà.
Ok. Incroyable. Merci beaucoup, Rémi. Est-ce que tu as un dernier conseil ou une dernière anecdote ou galère que tu veux raconter à nos auditeurs?
Je pense qu'on a fait le tour en galère. Je n'ai pas tout dit, mais les plus pertinentes étaient là. Non, dernier conseil, je pense que l'industrie, les deep tech, c'est génial. Il y a énormément de choses à faire. Je pense qu'en France, on a des actifs énormes d'un point de vue compétences, savoir, etc. Mais c'est dur. Faut pas non plus être naïf là-dessus. C'est dur, c'est long. C'est pas les mêmes échelles de temps que les boîtes software, que les boîtes e-commerce et tout. Donc faut y aller avec un esprit de marathonien quand même. Mais il faut y aller parce que, enfin, pour moi, l'économie de demain. Moment, si on dépend à 100% de produits qui sont importés de l'étranger, ça nous met quand même un peu mal d'un point de vue macroéconomique. On a les moyens de faire les choses différemment. Il faut se retrousser les manches. Il ne faut pas avoir peur d'aller se battre contre nos concurrents américains, chinois. Il faut avoir de l'ambition et il faut y aller au courage, quoi.
Trop bien. Merci beaucoup, Rémi. À la prochaine. Salut.
Merci. Merci à toi. Salut.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Évidemment, si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets innovants, n'hésitez pas à contacter Start the Fuck Up, on saura s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire sur contact@stfu.pro. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.